Esprit de Justice qui va s'intéresser à une expérience de médiation équine en prison en compagnie de Bénédicte de Villers et de Christine Charbonnier. On constate un engouement grandissant pour la médiation animale, c'est-à-dire pour des pratiques thérapeutiques associant toutes sortes d'animaux, petits ou grands, des chiens et notamment des chevaux. Elle se développe notamment dans le traitement de l'autisme, dans la réadaptation par l'armée des traumatisés de guerre ou encore dans des programmes d'aide aux victimes de terrorisme. Quelques expérimentations ont aussi lieu en prison et notamment dans un établissement du sud de la France avec des chevaux de Camargue. Quels enseignements peut-on retirer de cette expérience originale d'équithérapie ? Comment expliquer que la médiation de l'animal prenne le relais lorsque les médiations humaines trouvent leurs limites ? Eh bien peut-être parce que l'animal ne juge pas et qu'il permet ainsi au détenu de retrouver un contact immédiat et sensible avec l'innocence de la vie et de la nature qui efface en quelque sorte l'univers de la prison. C'est ainsi moins la présence de l'animal qui exercerait un effet thérapeutique quasi magique que le déclic qu'elle provoque, que la rupture qu'elle introduit dans un temps monotone et linéaire, que la convivialité autour de lui, qui permet à nouveau d'imaginer un monde par-delà les murs. Eh bien, c'est donc le bilan de cette expérience que vous propose ce soir Esprit de Justice, en compagnie de Christine Charbonnier. Christine Charbonnier est secrétaire générale à la Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille. Mais elle était directrice de la maison centrale d'Arles au moment où s'est déroulée cette expérience de médiation équine. Et puis Bénédicte de Villers, qui est anthropologue et philosophe, qui dirige le centre La Bastide à Bruxelles et qui coordonne le certificat universitaire en médiation animale et relations avec la nature, organisé par l'Université de Liège. Et elle a été l'une des deux évaluatrices indépendantes de cette expérience avec Jessie Ensorge-Jeunier, psychologue clinicienne.
France Culture. Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Bonsoir mesdames, bonsoir Christine Charbonnier. Alors, vous étiez, je le rappelais, directrice de la maison centrale d'Arles, qui vous avez pris cette expérience, c'est pas vous qui l'avez initiée ?
Bonsoir, non, effectivement, cette expérience a été initiée en 2009, à l'occasion de la réouverture de la maison centrale suite aux inondations. Mmh. Et Jean-Philippe Mayol, le directeur de l'époque, a eu à cœur d'essayer de réouvrir cette maison centrale qui héberge des très longue peine, des 130 personnes détenues condamnées à des crimes assez graves, puisque 54% d'entre eux en moyenne sont condamnés pour des assassinats ou des homicides. Et il a eu à cœur d'essayer de mettre en place des dispositifs favorisant le mieux vivre ensemble, prévenant les altercations verbales et essayant d'améliorer les qualités relationnelles entre personnes détenues, mais aussi entre personnes détenues et personnel pénitentiaire.
Alors, la prison d'Arles, la centrale d'Arles est gâtée en quelque sorte parce que vous avez la possibilité de pratiquer l'encellulement individuel.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est très important.
Luxe, oui.
C'est très important. Et puis, le faible effectif permet de faire des prises en charge qualitatives qui sont vraiment intéressantes et porteuses.
C'est ça. Mais c'est assez un peu indispensable quand on a des peines aussi longues.
Voilà. En tout cas, l'enjeu mérite effectivement qu'on puisse agir de cette façon-là et travailler au fond des choses et permettre aux personnes condamnées à des longues peines de cheminer, parce que souvent le point de départ oui. va nécessiter effectivement plusieurs années avant d'être en capacité de vivre normalement à l'extérieur.
C'est ça. Et il y a des sorties de temps en temps dans cette prison, Christine
Charbonnier ?
Oui, il
y a 4 à 5 sorties par an à peu près.
Et qui se prépare, j'imagine.
Ah, qui se prépare 2-3 ans à l'avance en général.
2-3 ans à l'avance, oui. Pour sortir, pour cet événement, qui est, j'allais dire, un traumatisme, qui est un choc au moins pour les détenus.
Oui, c'est ça. Et en général, effectivement, on propose des permissions de sortir encadrées ou pour pratiquer une activité sportive ou tout simplement pour aller faire quelques courses à l'extérieur à ces personnes qui souvent ne sont pas sorties depuis 10, 15 ans. J'en ai même vu sortir une qui était incarcérée depuis plus de 30 années consécutives. Donc effectivement, il y a vraiment des choses très concrètes à réaliser. À apprendre avant de pouvoir sortir.
C'est ça. Oui, parce qu'au bout de 30 ans, le monde a tellement changé. J'allais dire qu'il a tellement changé encore plus aujourd'hui, peut-être qu'il y a une cinquantaine d'années.
C'est ça. Puis des petites choses auxquelles on pense pas du tout. Par exemple, le sol de la prison est plat. Arles est un tout petit peu vallonné. Mmh. Et finalement, certains se sont sentis très essoufflés au bout d'un quart d'heure dans la ville.
Ah oui.
D'autres sont revenus en disant « mais que de bruit ». Alors qu'Arles est une toute petite ville dans laquelle, pour nous, il n'y a pas beaucoup de bruit. Mais c'est vrai que la privation de liberté, en tout cas, prive de certains sens. La vue est limitée par les murs. On entend souvent les mêmes bruits. Il y a assez peu d'odeurs ou des odeurs qui sont celles de la prison. Donc, ces sorties progressives sont vraiment indispensables.
Pour retrouver les sensations de la vie quotidienne, les sens, il y a quelque chose de très sensitif dans ce que vous dites, c'est-à-dire monter, avoir un sol irrégulier, accidenté, et puis des bruits qu'il faut savoir identifier pour pouvoir tout simplement s'orienter dans la vie.
Oui, c'est ça.
Alors, vous avez eu cette idée de médiation animale, médiation équine, et était déjà là quand vous êtes arrivé à Arles?
Oui, elle était là, elle fonctionnait déjà régulièrement et j'ai trouvé que c'était vraiment une idée intéressante qu'il fallait absolument poursuivre. C'est une journée vraiment inhabituelle pour les personnes détenues, pour le personnel aussi d'ailleurs.
Oui, on va le voir, parce que c'est un événement pour tout le monde dans la prison.
C'est ça. D'abord, ça se passe un dimanche, alors que d'habitude, en prison, le dimanche, il ne se passe pas grand-chose. Les personnes détenues vont pouvoir passer une journée complète en extérieur, de 8h à 18h. Alors qu'habituellement, quand on est en prison, on sort 2 heures, 3 heures par jour maximum et uniquement dans la cour de promenade, alors que là, ça va se passer sur le terrain de sport. Le repas est pris en commun. Ça aussi, c'est quelque chose d'exceptionnel, puisqu'en prison, les détenus prennent leur repas seuls dans leur cellule. Et donc, compte tenu de la longueur des peines, certains n'avaient pas partagé un repas depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans avec d'autres personnes.
Donc, ça fait 20 ans qu'ils n'avaient pas partagé un repas avec quelqu'un d'autre.
C'est ça.
Alors je me tourne vers Bénédicte de Villers. Vous insistez beaucoup sur dans l'évaluation que vous avez faite de cette expérience, précisément sur la convivialité et le repas notamment.
Oui, tout à fait. C'était un élément qui m'avait frappé d'emblée. Alors j'ajouterais à ce que Madame Charbonnier vient de dire j'avais même entendu un témoignage d'un détenu disant que pour lui c'était même tellement extraordinaire puisqu'il considérait n'avoir même jamais mangé en famille. Et donc on peut imaginer que le partage d'un repas au milieu d'une journée comme ça. Ça introduit une rupture dans le temps de la peine, dans ce temps long de la longue peine, mais ça introduit aussi une rupture au niveau relationnel par rapport à des habitudes qui peuvent avoir été prises depuis la jeunesse, voire depuis l'enfance.
Oui, d'habitude,
c'est saisissant pour eux.
Mais habitudes qui n'ont pas été prises ou qui ont été oubliées, c'est-à-dire que ça veut dire, si je vous entends, Christine Charbonnier, c'est-à-dire qu'en fait les détenus mangent seuls.
Oui.
Seuls dans leur cellule pendant des années.
C'est ça, c'est tout à fait ça. Et là, la singularité de ce projet aussi, c'est que, bon, certes, le repas était partiellement préparé par la cuisine de l'établissement, mais la plupart des détenus avaient aussi préparé des choses en cellule qu'ils ont amenées ce jour-là pour les partager.
C'est ça. Mais donc, il y a une dimension, ils ont confectionné une partie du repas, oui. Et là, déjà, ils partagent, ils préparent avant de partager.
C'est ça. Oui. Parce que l'idée de cette journée, c'est justement que ce soit pas une journée de consommation, de quelque chose de ludique, c'est vraiment une journée participative. Qui nécessitent une vraie implication de leur part, une implication sensible, mais aussi une implication dans la logistique, puisque l'objectif, c'est aussi que chacun prenne sa part dans la construction de cette journée-là.
Alors, on a parlé du repas de midi, mais en fait, ça commence par le petit déjeuner.
Alors effectivement, dès 8h du matin, les moniteurs de sport vont chercher les personnes détenues en cellule. Les accompagnent sur le terrain de sport et d'ailleurs sur le petit jardin qui jouxte le terrain de sport parce qu'il y avait aussi à ce moment-là une formation professionnelle à l'horticulture. Et donc, le temps du café se passe sur cet espace-là. D'ailleurs, espace que certains ne connaissaient pas puisqu'il n'est pas visible.
Qui est à 15 mètres de leur cellule.
Oui, c'est ça, qui n'est pas très loin, mais effectivement, qui n'est fréquenté que par les personnes qui sont en formation. Et donc, ce temps du café, c'est aussi un temps de passage des consignes, de présentation de l'activité. activité par l'animateur qui est psychologue de formation, par l'éleveuse de chevaux qui a donc fait entrer ces deux énormes chevaux qui sont des étalons, qui sont assez impressionnants, qui sont des chevaux blancs de Camargue, et puis du personnel pénitentiaire qui va aussi encadrer la journée. C'est ça. Une fois ce petit déjeuner et ce passage des premières consignes passées, là, à ce moment-là, tout le monde est un peu sur l'expectative et personne ne parle trop. Tous ensemble, ils vont...
Il y a certains qui ont peur, non ?
Oui, c'est très variable selon les personnalités. En tout cas, tout le monde doit mettre la main à la pâte pour construire le rond de longe, c'est-à-dire l'aire sur laquelle vont évoluer les chevaux. Une aire ronde entourée d'une barrière qu'il faut monter. Ils vont aussi préparer des parcours marqués au sol par des cordes.
Alors, on va revenir sur les parcours. Je voudrais qu'on s'arrête sur la construction d'un espace Bénédicte de Villers, parce que vous avez... Ça vous a beaucoup frappé, ça, dans l'évaluation que vous avez faite, sur la construction d'un espace, un espace particulier, et on commence par construire cet espace, et ça a un rôle éminemment symbolique, selon vous.
Oui, effectivement, l'idée, c'était dans cette optique anthropologique qui était la mienne, c'était vraiment de partir justement du sensible, c'est-à-dire de la manière dont les relations pouvaient s'organiser, se nouer, se déployer. Et tout de suite, on s'aperçoit que pour qu'elles puissent avoir lieu, il faut effectivement un environnement, il faut effectivement un espace particulier, bienveillant, aménagé. Et au fond, tout au long de la journée, il y a différents espaces. On a évoqué l'espace du petit déjeuner, qui, si ma mémoire est bonne, effectivement, c'était dans le hall des sports. Et puis cette sortie dans la cour... pour construire ce rond de longe dans lequel les chevaux vont être d'abord introduits seuls et vont courir en cercle et montrer un peu toute leur superbe.
Oui, ce sont des étalons en plus. Vous pouvez rappeler à nos auditeurs la particularité du tempérament des étalons ?
Ce sont des chevaux entiers et c'était vraiment le souhait de l'intervenant de finalement que les détenus aient face à eux des chevaux qui puissent faire la démonstration de leur virilité et de leur puissance.
Oui. Alors il y a une expression qui revient souvent, Christine Charbonnier, hein, sur le cheval de Camargue. Hein, c'est pas n'importe quel cheval, c'est un cheval qui est fier et il y a ce dicton: tu seras mon ami, jamais mon maître.
Effectivement, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que au départ, une fois que le rond de longe est monté, effectivement, les deux chevaux évoluent et il y a un temps d'observation assez long. Alors, certaines des personnes détenues sont impatientes de commencer, d'autres ont peur, certains sont joyeux. Enfin, voilà, on éprouve déjà des émotions qui sont différentes selon les individus, leur parcours de vie, et c'est déjà ce qui était recherché. C'est-à-dire qu'effectivement, on les oblige par la force des choses, par l'expérience sensible, à faire un pas de côté qui va peut-être pouvoir être le déclencheur d'autre chose.
C'est ça. Alors, vous employez l'expression d'ailleurs, Bénédicte de Villers, vous dites, c'est leur mettre le pied à l'étrier, c'est le cas de le dire.
Oui, parce que finalement, si la journée n'était pas présentée comme une journée d'activité, peut-être qu'il y aurait un certain nombre de détenus qui se seraient montrés réfractaires. Si on avait appelé ça hypothérapie ou séance de thérapie avec le cheval, probablement qu'effectivement elle ne rencontrerait pas le même accueil que le fait qu'elle s'appelle une journée d'activité avec des chevaux Camargue. Et dans la journée de préparation, avant même que se déploie la journée d'activité, puisque finalement la journée d'activité proprement dite est entourée d'une journée de préparation et puis d'une journée après coup d'évaluation, donc c'est quand même au niveau, enfin il faut se représenter ce que ça représente au niveau travail du coup. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça ?
Oui, allez-y, oui.
Pardon, à distance, ce n'est pas toujours facile.
Donc, dans ce que vous disiez, Christine Charbonnier, vous parliez d'un espace bienveillant. C'est pas évident de construire un espace bienveillant quand on est dans un milieu carcéral, ou dans un milieu carcéral, c'est à la fois un espace total, on y reviendra, et c'est un espace où il y a des surveillants, des surveillés, pour le dire très très schématiquement. Et donc ça se fait pas comme ça, j'imagine, de construire un espace bienveillant quand on est dans ce rapport si particulier de la prison.
En tout cas, il ne suffit pas de le décréter, oui, mais il faut le favoriser.
Oui.
Et c'est vrai que l'une des règles du jeu, entre guillemets, qui était posée, c'est le respect, ce jour-là, hein, ce jour qui n'est pas comme les autres, le respect des uns et des autres, le respect des consignes, justement, pour faire en sorte que la journée se passe bien, puisque ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas de monter le cheval, il va s'agir de faire un certain nombre d'exercices en accompagnant le cheval, en marchant à côté de lui, en le faisant marcher au pas, et puis au trot, et puis au galop, et puis ensuite en le faisant cheminer dans certains parcours.
Et des chevaux qui sont complètement dressés ou...
Non, ce sont des chevaux semi-sauvages.
C'est ça, voilà.
Ouais. Justement, voilà, ouais, qui, quand on respecte certaines consignes, quand on a l'attitude adaptée, obéissent. Mais effectivement, ce qui est vraiment très intéressant effectivement, dans le rapport avec le cheval, c'est l'effet miroir qui est ainsi suscité. C'est-à-dire que vraiment, le cheval est très sensible à l'énervement de la personne, à un ton agressif,
il le ressent.
À une posture. Il le ressent et du coup, lui-même devient agressif. Et c'est en cela que c'est un point de départ après pour travailler avec les personnes détenues, pour leur faire prendre conscience de ce qu'elles ont généré par leur posture, par leur attitude, par leur façon de verbaliser ou pas les choses.
C'est ça. Mais Bénédicte de Villers, c'est un rapport, c'est une relation particulière quand même avec un animal de manière générale.
Oui, et ça rejoint cette question du pied à l'étrier du travail thérapeutique, c'est-à-dire que finalement, c'est dans cette mise en relation que se joue une amorce pour que justement la personne puisse s'interroger sur elle-même, sur sa manière de se positionner vis-à-vis d'autrui, mais d'un autrui tout à fait inhabituel, évidemment, pas un co-détenu ou pas un surveillant ou une surveillante, mais voilà, là, c'est une confrontation à l'animalité avec un effet de rétroaction directe par rapport à un geste ou une posture qu'il aurait adopté. Et donc, effectivement, il n'est pas question pour le cheval d'obéir, mais on est plus dans une interaction avec voilà, l'effet que je produis quand, avec mon corps, j'agis de telle et telle façon. Et comment est-ce que je m'ajuste? Comment est-ce que j'ajuste ma distance? Comment est-ce que j'ajuste mes mouvements, ma voix, ma pose de voix? Comment est-ce que j'affiche une aisance, une certaine autorité sans être dans la domination?
Oui, parce qu'on ne domine pas un cheval. C'est aussi c'est ça qui est intéressant. C'est lui qui vous regarde de haut, un cheval.
Tout à fait. Et comme il n'y a pas de monte, donc le détenu est sur le sol. Donc c'est vraiment une relation où ils sont face à face. Et donc, s'il s'agit de guider le cheval et de lui proposer de faire un exercice, ben, c'est par les mouvements du corps, éventuellement par une longe. Mais donc, ça reste des moyens très, très légers. Donc, c'est vraiment le face-à-face qui domine. Et donc, dans ce face-à-face, comment est-il possible de faire comprendre qu'on voudrait que le cheval recule, par exemple, ou qu'il nous suive? Alors, l'intervenant joue aussi sur la métaphore du lien de cette longe qui relie le détenu au cheval et comment s'en tirer, s'en pousser, comment est-ce que je vais pouvoir faire comprendre que je souhaiterais que le cheval avance ou que je souhaiterais que le cheval recule. Et donc, c'est tout un travail, en effet, sur l'ajustement réciproque avec un effet de feedback du cheval qui est direct, évidemment, hein, puisque à trop de domination, bah le cheval va effectivement répondre
il va se cabrer.
Ou va refuser d'obtempérer.
Alors un ajustement réciproque, Christine Charbonnier, ça veut dire pour des gens qui ils n'ont pas les codes nécessairement, il faut les inventer, c'est par sa présence, c'est un certain type de relation qu'il faut établir avec un animal assez étranger.
Mais déjà, un certain nombre d'entre eux, effectivement, étaient très surpris de constater que la douceur était plus efficace que la force.
Ouais.
Et certains détenus qui ne font pas du tout parler d'eux en détention, qui sont très discrets, qui sont même mis de côté, parfois réussissaient beaucoup mieux les exercices que
les pierres à bras.
C'est ça. Et donc, ça aussi, c'est une première prise de conscience et qui permet effectivement de réaliser que dans la relation à l'autre, on n'a pas toujours besoin d'être le plus fort, que les essentiels se situent ailleurs et même que l'efficacité se situe ailleurs. Et quand on replace cette expérience dans le contexte de la maison centrale d'Arles, comme je le disais en préambule, dans laquelle quand même une forte proportion des personnes détenues sont condamnées pour des faits de violence contre une autre personne, c'est vrai que ça présente un intérêt de se rendre compte de visu et de vivre cette expérience. Justement, c'est là que la médiation de l'animal est essentielle.
C'est ça, la douceur paye. C'est ça finalement la leçon, que en étant plus doux et en étant plus attentif à cet interlocuteur muet, on pouvait obtenir des résultats.
C'est ça. Et d'ailleurs, Thierry Boissin, le psychologue, leur disait toujours « L'essentiel, c'est d'allier la douceur et la fermeté. Mais la fermeté, c'est pas de la force. »
C'est d'une certaine présence.
C'est ça.
Sale le chien se souvient, sale le chien vous attend. Dommage qu'il vive si peu de temps. La paumée, cette enclume où tout est dessiné et l'étoile. Et la lune, et le cœur démarré, toutes les lignes tracées, roulent pour la solitude, ce ventre constellé, de manquer d'habitude. Seul le chien se souvient. Seul le chien vous attend. Dommage qu'il vive si peu de temps. Type tordu, corps fiévreux, aux mains amples aux romances, promise aux contredanses, aux créneaux hasardeux, ils narguent des sirènes, leurs chanteurs des adieux, du feutre sur les yeux, plus tard quand ils reviennent. Seul le chien se souvient, seul le chien les attend. Dommage qu'ils vivent si peu de temps.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
C'est la dernière étoile.
Esprit de justice qui continue de s'interroger, de revenir sur cette expérience originale d'une médiation par des chevaux dans la prison d'Arles en compagnie de Christine Charbonnier qui était la directrice de cette prison à l'époque et Bénédicte de Villers qui a choisi de nous faire entendre cette chanson d'Alain Bachoum, seul le chien, Bénédicte de Villers, c'est ça la présence la plus qui parlera la plus probablement à nos auditeurs.
Oui, je dois dire que j'aime beaucoup cette chanson parce que je trouve qu'elle laisse vraiment la place à la dimension d'altérité voilà, qui existe dans les relations qui nous unit à des animaux aussi familiers que le chien. Je trouve que voilà, cette chanson est pleine de mystère, de poésie et me préserve cette idée de différence, même si on a l'impression que l'animal, on le connaît. Que le chien qui vit avec nous, on le connaît très très bien. Je trouve que dans cette chanson, il garde justement cette part d'altérité irréductible et de mystère qui fait toute la richesse de sa présence. Voilà, c'est pour
oui,
ça. C'est pour
et
ça
en même temps, une altérité, fait... une altérité qui comment dirais-je, qui se dépasse, qui se surmonte par le regard, un regard très particulier avec un animal, le Bénédicte de Villers.
Oui, vous avez en introduction évoqué effectivement l'idée de l'innocence de l'animal. Alors, c'est vrai que peut-être ça, c'est une interprétation très culturellement marquée, c'est-à-dire comme si finalement l'animal nous renvoyait à une nature qui, voilà, une non encore pervertie par notre culture. Au-delà de ça, peut-être qu'effectivement, c'est vraiment l'altérité, c'est-à-dire une autre manière d'être présent au monde, une autre manière de nouer des relations avec les vivants, une autre manière de nous connecter, de se connecter au monde environnant. Voilà, je pense que préserver cette part d'altérité, c'est vraiment quelque chose d'important.
Christine Charbonnier.
Oui, et justement, je pense que l'altérité, c'est vraiment important de le travailler avec des personnes détenues et notamment à de longues peines, parce que c'est le contraire de la toute-puissance. Oui. C'est savoir reconnaître l'autre en face dans sa différence et l'accepter, cette différence.
Oui, mais en même temps, on insiste souvent sur cette idée que l'animal ne juge pas. C'est particulièrement fort en prison, ça. C'est des gens dont la vie est organisée autour d'un jugement porté par d'autres sur ce qu'ils ont fait. Et donc, ça les travaille beaucoup en prison, Christine Charbonnier. Et donc, c'est pour ça que je trouve que l'innocence de l'animal, l'innocence de la nature n'en prend que plus de force.
Vous avez raison, c'est essentiel. Et dans le déroulé de cette activité, il y a aussi tout un moment au cours duquel les personnes détenues vont penser et vont prendre soin des animaux. Mmh. Et c'est vrai que ça suscite vraiment des réactions de peur chez certains, oui. Puisqu'effectivement, c'est pas simple, par exemple, de nettoyer les sabots de ces gros chevaux. Mais d'autres fois aussi, des réminiscences. Là, je me souviens d'une personne détenue qui, tout d'un coup, s'est mise à fondre en larmes quand il était en train de brosser la crinière du cheval en disant « ça va peut-être vous choquer, mais ça me rappelle quand je coiffais ma fille ». Oui. Et il n'avait jamais parlé de sa famille, il n'avait jamais parlé de ses enfants. Et parfois, c'est des petits, justement, des petits moments qui sont vraiment essentiels et qui vont permettre ensuite aux conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ou aux psychologues de repartir de ce moment d'émotion et de ce qui a été dit, peut-être pour mieux comprendre le passé, le cheminement qui les a amenés en prison et mieux travailler l'avenir, justement.
C'est l'idée, Bénédicte de Villers, c'est l'idée sur laquelle vous insistez, de déclic. C'est ce moment dans lequel il va se passer des choses par les émotions, et c'est pas une thérapie en soi, mais c'est le déclic. Comme ces larmes de ce détenu qui tresse la queue ou la crinière.
C'est ça. Une des questions qui m'a vraiment habitée en commençant cette enquête de terrain, c'était que les détenus témoignaient vraiment de la puissance du dispositif, des effets très très importants que cela avait eu ou que cela avait sur eux. Et l'étonnement provenait du fait que finalement, à une journée de ce type-là, ils pouvaient prétendre une fois par an au mieux, deux fois dans le meilleur des cas. Et donc ma question, c'était comment se fait-il qu'une journée aussi rare puisse avoir un tel impact, et qu'effectivement, ils témoignent en grande majorité du fait que dans la suite de cette journée, ils allaient être d'accord de s'interroger différemment sur leur parcours, sur eux-mêmes, sur leurs émotions, sur leurs points de fragilité, éventuellement de commencer un travail thérapeutique, etc. Et donc, voilà, l'idée, c'était vraiment de se dire, mais que se passe-t-il qui soit aussi fort, qui soit aussi intense au point de vue des émotions, pour que ça rende possible une telle démarche entreprise, évidemment, par eux-mêmes par la suite, quoi.
Et Christine Charbonnier, vous avez constaté, vous, en tant que directrice d'établissement, sur un petit nombre, une petit nombre de détenus, c'est tant mieux, vous avez constaté cet effet de déclic, cet effet de, tout d'un coup, on amorce quelque chose d'autre.
Oui, ça, incontestablement. Ensuite, c'est toujours très difficile d'évaluer la réalité de l'impact dans le temps, y a-t-il à chaque fois une vraie remise en question, un vrai cheminement qui est permis? C'est toujours très compliqué à évaluer.
Et on ne le saura jamais, finalement.
Mais intuitivement, on sent que des choses importantes se passent, y compris dans la relation des détenus entre eux, puisque les 6 détenus qui participent à cette journée-là ne se sont pas choisis. Ils étaient candidats, ou parfois on les a incités à être candidats, et donc les groupes sont volontairement composés de personnes différentes qui n'avaient pas forcément l'habitude de se côtoyer, justement pour essayer de passer au-dessus des représentations.
Et parfois qui ne s'apprécient guère.
Voilà, et là on a vraiment pu constater concrètement qu'après ces journées, la relation est changée. Ce qu'on n'a pas non plus expliqué, c'est que dans ces 6 personnes détenues, 2 étaient considérées comme des facilitateurs, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà participé à l'une de ces journées, et l'objectif de leur présence là était justement aussi d'accompagner ceux qui venaient pour la première fois.
C'est ce qui est un rôle gratifiant.
C'est gratifiant, ça crée de la solidarité. Dans le meilleur des cas, ça va même créer un peu une confiance entre les personnes, puisque au cours de l'après-midi, des exercices doivent se faire à 2. Et justement, il faut que le binôme fonctionne pour parvenir à un bon résultat.
Mais penser, Bénédicte de Villers, penser à cheval, c'est un travail de soin, un petit peu.
Oui, mais j'ai envie de rebondir sur ce que Madame Charbonnier vient de dire, parce que finalement, là, on vient d'évoquer les binômes constitués de 2 détenus, mais dans l'activité de l'après-midi, il y a aussi la fameuse carte Joker qui fait intervenir, en fait...
Alors, qu'est-ce que c'est que la carte Joker?
voilà, qui fait intervenir un surveillant ou une surveillante. Et justement, ça modifie aussi les relations, non seulement entre les détenus, mais entre les détenus et les surveillants. Donc, pour le coup, là, le surveillant ne sera plus celui qui éventuellement contrôle ou surveille. Parfois, ils sont appelés les porte-clés de façon très réductrice. Mais donc, on voit bien qu'il y a ce fossé initial entre les détenus et les surveillants. Et à la faveur de cette activité, en fait, à un moment donné, quand le binôme est en difficulté, ils peuvent appeler le joker, ou donc la carte joker, c'est le surveillant ou la surveillante qui arrive, et c'est la carte qui renforce le jeu, m'a expliqué l'intervenant. Et du coup, les interactions entre détenus et surveillants trouvent des occasions aussi très concrètes d'essayer autre chose et de surmonter ce fossé qui, dans le quotidien, les sépare.
C'est ça.
Ça, c'est très, très intéressant.
Bien sûr.
Là aussi, il y a un bouger, il y a quelque chose qui, au niveau des représentations et de l'action, peut être différent de ce qui se passe en régime quotidien.
Christine Charbonnier, vous confirmez ?
Oui, la présence des surveillants est vraiment très intéressante. D'abord, il faut bien l'admettre, certains n'étaient vraiment pas convaincus de l'intérêt de cette journée et de ces actions. D'autres étaient même carrément contre.
Ils viennent du coin, les gardiens, ou ils viennent de toute la France ?
Oh, essentiellement, la plupart habitent quand même dans le coin.
Oui, donc à Marguet.
Ou même s'ils n'étaient pas Camarguais, en tout cas aiment cette région, d'accord, connaissent cette culture. Mais c'est vrai que c'est plutôt peut-être une fausse représentation de journée plaisir, gratuit, qui pouvait leur sembler choquante. Et en participant à l'ensemble de cette journée, ils se sont rendus compte justement de tout le travail accompli et de tout ce qui était permis. Et par exemple, j'ai le souvenir de moments assez amusants où l'après-midi, il fallait que la personne détenue conduise le cheval en tenant la longe dans un parcours assez compliqué. Et donc, le premier d'entre eux, vraiment, n'y arrivait pas. Il marchait collé au cheval, dans le parcours. Bon, bref, il n'a pas réussi. Et puis, le second passe et le second se tient à l'extérieur du parcours et conduit parfaitement le cheval. Et le premier dit « Ah mais non, mais c'est pas ça la consigne, c'était tout à fait injuste. On avait dit qu'il ne fallait pas sortir du parcours. » Et là, l'animateur a dit « Non, on avait dit qu'il fallait que le cheval ne sorte pas du parcours. » Et donc, du coup, ça permet aussi de travailler sur le passage d'une consigne, la nécessaire réflexion pour mettre en œuvre une consigne. Et puis, évidemment, quand on rapporte ça à la règle, à l'intérêt de respecter la règle, et pour réussir, effectivement, il faut accepter de prendre ce temps de raisonnement. Donc, le premier s'est vraiment mis en colère. Et puis après, ben voilà, c'est ça aussi de la médiation. On a pu aborder la façon de faire quand on est face à une règle qui n'est pas parfois pas très facile à mettre en œuvre.
Et puis surtout qu'on triche, on triche pas beaucoup avec un animal.
Non. Non, et là, en l'occurrence, même le second détenu n'avait pas du tout triché. Il avait bien appliqué la règle, mais c'est vrai que c'était nettement plus facile puisque lui marchait à l'extérieur du dit parcours.
Est-ce qu'il y a des détenus qui ont, par leur passé, une familiarité déjà avec les chevaux et qui retrouvent finalement quelque chose qui leur est très familier? Et là, c'est une perspective complètement nouvelle, Christine Charbonnier.
Oui, certains oui, surtout certains qui étaient d'origine gitane.
Ah oui, bah oui.
Et alors là aussi, c'est amusant parce que il a fallu gérer des frustrations. Certains voulaient absolument monter sur le cheval. Or là aussi, rappel des règles.
Oui, la règle.
Et c'est là que les surveillants se rendent compte aussi de l'intérêt. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas cédé, personne n'est monté sur le cheval. C'était pas l'objet de la journée. Voilà, donc c'est aussi l'apprentissage.
On joue avec une règle du jeu, mais c'est une règle quand même.
C'est ça.
Voilà, c'est ça, Bénédicte de Villers. Vous avez pas mal travaillé sur cette évolution, ce changement, le temps d'une journée, le temps d'un dimanche, des rapports entre les détenus et les surveillants.
Oui, et à propos des surveillants, ma collègue Jessie Ensorge, qui était en charge de l'étude dans son volet plus psychologique, avait vraiment objectivé en fait comment les représentations des surveillants évoluaient au fur et à mesure du déploiement de l'activité. Et là où, avant l'activité, les surveillants pouvaient imaginer que c'était une activité essentiellement de détente et récréative et n'en voyaient pas nécessairement l'intérêt, et donc n'imaginez pas qu'il puisse y avoir des objectifs clairs à cette activité, ils changent complètement d'avis et d'opinion après l'activité, où ce qui les frappe d'emblée, c'est que s'il faut poursuivre cette activité, c'est bien en raison des objectifs qui sont poursuivis. Mais, voilà, ça me semblait important de mentionner
aussi. Vous insistez, Bénédicte de Villers aussi, vous insistez sur le fait que à un certain moment de la journée, chacun oublie un peu qui est l'autre.
Oui et non, puisque comme l'a très bien dit Madame Charbonnier, il y a cette question du cadre dans lequel effectivement on peut se mouvoir et on peut envisager certaines sorties de cadre, mais sans enfreindre la règle. Et ça, c'est un petit peu ça qu'évoquait la situation de Madame Charbonnier tout à l'heure. Et ça s'est vérifié aussi dans les interactions avec les surveillants. Quand un détenu interpellait par exemple une surveillante sans dire un « s'il te plaît », il était d'office repris, alors que ce jour-là, il pouvait effectivement l'appeler par son prénom, chose qu'évidemment, de nouveau, dans le régime quotidien, il n'aurait jamais pu faire. Donc on voit qu'on trouve cette mobilité dans le cadre, sans enfreindre d'une règle.
Christine Charbonnier.
Non, je crois qu'effectivement, chacun sait très bien où est sa place. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que de sa place, en le sachant bien, on peut quand même avoir une relation apaisée, respectueuse et qui permet à tout le monde d'avancer.
Est-ce que c'est pas ça ? Moi, c'est ce que j'ai compris et ça m'intéresse parce que je pense à d'autres situations que nous vivons. Est-ce que c'est pas ça la nouveauté ? C'est que, bien sûr que le surveillant reste surveillant, mais la présence du cheval met tout le monde un peu à l'égalité. On est tous hommes et femmes devant un animal avant ou en même temps qu'être surveillant ou détenu.
Oui, c'est tout à fait ça. Moi, j'avais été très intéressée par un livre écrit par le philosophe et sociologue Hartmut Rosa, La résonance. Il l'a pas du tout écrit par rapport au contexte pénitentiaire, et pour l'instant, je trouve qu'on peut quand même vraiment tout à fait utiliser, y distinguer. Il explique que tout dans la vie dépend de la qualité de la relation au monde et que il y a des éléments et des environnements qui sont résonnants, par exemple la nature, l'art, la religion, l'histoire, et d'autres qui ne le sont pas du tout, par exemple le droit, science, l'économie.
Ou la prison qui est un univers entièrement finalisé.
Et ben voilà, exactement. Et donc, je pense que c'est important dans la prison, pour ne pas déshumaniser et pour continuer à considérer les personnes détenues comme des êtres humains et de les préparer justement en tant qu'êtres humains à devenir des vrais citoyens et à affronter une vie dans la société sans difficulté. Ben, je pense qu'il est important d'introduire justement des éléments résonnants et les animaux en sont, les activités artistiques également.
Bénédicte de Villers, vous insistez là aussi là-dessus sur, c'est ce que disait Christine Charbonnier, dans le fond, ce qui se joue par la présence de l'animal, tout d'un coup, il y a une ouverture au monde. C'est un rapport au monde qui s'installe lorsqu'on est en présence d'un animal, de surcroît, d'un animal semi-sauvage.
Oui, tout à fait. Dans cet espace de résonance, c'est pas pour rien qu'il y a effectivement des jonctions entre l'espace artistique ou l'espace faisant intervenir des animaux. Il y a de la place aussi pour l'imagination. Moi, j'avais été très frappée au moment de la présentation de la journée quand sont expliquées un certain nombre de consignes. Il y a aussi tout un appel à l'imaginaire et à la culture qui est fait par l'intervenant, qui rappelle la légende des chevaux Camargues qui sont faits de sel et d'écume et qui sortent de la mer et qui disent à l'homme « tu seras mon ami et jamais mon maître ». Et c'est aussi tout cet environnement de résonance imaginaire et culturelle qui permet aussi que quand il arrive une semaine après ou 15 jours après l'activité avec une carte en disant « voilà, le cheval m'a dit à ton sujet quelque chose », personne ne rit. Aucun détenu n'y voit une infantilisation. En fait, on est dans un registre où, en effet, il y a de la résonance, il y a de l'imaginaire. Et donc, le cheval a dit à l'intervenant, par exemple, d'un détenu qui est peut-être un braqueur et donc qui a l'habitude des démonstrations de force, le cheval lui a dit qu'il était capable de douceur. Et donc, tout d'un coup, ce message qui serait peut-être raillé ou moqué en temps normal est tout à coup pris avec beaucoup de sérieux,
c'est ça,
comme une façon de voir le monde autrement.
Il devient audible. Et vous aussi, d'ailleurs, Bénédicte de Villers, vous avez lu Hartmut Rosa, et vous dites il y a un type de relation autour de l'animal, je dis bien autour de l'animal. Il y a un type de relation, et grâce à l'animal, que Hartmut Rosa appelle des relations responsives. Alors, c'est un anglicisme, mais ça veut dire que, en fait, il y a un type de relation particulier autour de l'animal, Bénédicte de Villers.
Oui, c'est ce qu'il appelle de ses voeux dans ses qualificatifs, c'est des relations où chacun ou chaque protagoniste a la possibilité de répondre en fonction de ce qu'il est. Et ça, je crois que quand on parle de médiation animale, il ne faut pas le perdre de vue et c'est important d'y insister. C'est-à-dire que c'est important d'envisager ces dispositifs comme des dispositifs où l'animal lui-même aussi a la possibilité de parler de sa voix et de parler en fonction de ce qu'il est, de ses besoins. Et donc, ça, c'est une façon quand même de garder la boussole orientée vers le respect des besoins de l'animal, le respect de sa façon à lui d'être, de communiquer, d'être en relation avec les autres. Et donc, c'est une façon de lutter contre l'instrumentalisation des animaux, par exemple, dans ce type de dispositif. C'est quand même toujours quelque chose qu'il faut éviter.
Christine Charbonnier.
Non, mais je partage effectivement tout à fait ce qui vient d'être dit.
L'animal dit des choses aux hommes.
Oui, en tout cas... Oui, l'animal dit des choses aux hommes et je pense que c'est important effectivement de pouvoir laisser place au ressenti, à ce qui est non-verbal. Et en même temps, ces journées-là sont aussi, elles sont pas construites pour cette raison, mais elles sont aussi des moments de parole. Elles permettent des moments d'échange, des moments de parole. Antoinette Chauvenet dit toujours que dans les prisons, il est nécessaire qu'il y ait des lieux de conflictualisation. C'est-à-dire que de façon cadrée, on puisse quand même se dire les choses. Et on se rend compte là, de façon inopinée, qu'au cours de ces journées-là, des choses importantes peuvent se dire. La direction, en l'occurrence moi, passe aussi un certain nombre d'heures au cours de cette journée. Et parfois, je deviens la dépositaire de revendications, de choses qui ne vont pas en détention.
Il y a des messages qui passent, oui.
Voilà. Alors même si je dis que c'est pas forcément, si je leur réponds que c'est pas forcément le bon moment ou qu'on en parlera à d'autres moments, n'empêche que c'est dit, c'est entendu et on peut passer à autre chose. Donc c'est aussi tout ce qui est permis au cours de ces journées-là.
C'est ça. Mais c'est-à-dire que ce que je comprends, c'est que vous avez introduit à travers cette ronde de longe, à travers cette avec les chevaux, c'est le monde qui rentre, c'est un certain monde extérieur qui rentre en prison.
Oui, on montre aussi que le cadre est nécessaire, qu'il n'est pas toujours contraignant, mais qu'il permet de faire des choses. C'est vraiment même amusant, une fois justement, un détenu qui n'avait pas respecté les consignes, le cheval est parti en courant, donc en dehors du rond de l'ange, il a fallu lui courir après. Donc voilà, c'est un petit peu... voilà. Là aussi, ça illustre très bien
c'est
que
ça,
parfois,
c'est métaphorique,
là, voilà, on a envie de partir... Et voilà, et ce sont tous ces moments-là qui permettent effectivement d'aborder des sujets qu'on n'abordait pas en temps normal.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Et Esprit de Justice qui continue cette réflexion, ce débriefing, j'allais dire, sur une expérience singulière, mais ô combien riche, de médiation équine, médiation de l'animal, en prison, en compagnie de Bénédicte de Villers, qui est philosophe et anthropologue, et Christine Charbonnier, qui était la directrice de cette maison centrale, et qui a choisi de nous faire entendre Beyrouth, par Ibrahim Mahalouf. Ibrahim Mahalouf, Christine Charbonnier.
Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le métissage de sa musique qui témoigne que la diversité est une richesse. Mmh. Et puis, c'est vrai qu'il prône toujours l'improvisation. Et c'est plutôt rassurant de savoir que tout n'est pas écrit. C'est aussi la possibilité de se dire qu'il faut toujours essayer, qu'il faut laisser une place à l'imagination, qu'il faut se faire confiance et qu'il en résulte des choses qui sont belles.
Tout n'est pas écrit dans une vie notamment.
Exactement. Et quand on travaille en prison, c'est vrai qu'il faut toujours essayer de garder l'espoir qu'on peut faire avancer, qu'on peut aider, qu'on peut préparer une sortie de la façon la plus constructive possible.
C'est ça. Et il y a dans sa musique aussi quelque chose d'un peu créolisé, où on voit l'influence de l'Orient et puis en même temps c'est du jazz. Et donc c'est Bénédicte de Villers, finalement. Christine Charbonnier disait ce qui est puissant dans la médiation équine, la médiation animale, c'est qu'on est surpris par son émotion, on est surpris par les larmes qui viennent, on est surpris par un regard différent porté avec l'autre avec lequel il faut se débrouiller pour faire avancer le cheval ou pour le faire rester dans les clous. Et c'est finalement une émotion qui précède le langage et qui permet le langage peut-être.
Oui, c'est une belle façon de dire, mais tout ça nécessite effectivement cette préparation d'un espace qui rend possible la chose. Avec ma collègue Véronique Servet, on aime à recourir au concept d'espace potentiel, en fait, pour justement que puissent advenir les émotions, que puissent advenir par la suite même, en effet, le langage. Et dans cet espace potentiel, comme vous le disiez avant la pause musicale, c'est-à-dire que c'est vraiment un environnement un peu du dehors qui vient au dedans, mais c'est aussi le dedans qui est présent. Donc on est vraiment dans ce ni dehors ni dedans, cet espace intermédiaire. Où ce sont les sens qui vont parler, retoucher un cheval quand on vit de façon aussi isolée, aussi longtemps, en régime pénitentiaire central, c'est vraiment quelque chose qui, de nouveau, fait rupture et introduit quelque chose d'extraordinaire et qui ne peut que susciter un lot d'émotions très, très important. Je me rappelle d'un détenu qui m'avait dit « Qu'allez-vous faire du traumatisme de cette journée ?» Et je trouvais que c'était fort intéressant parce qu'en fait, moi, j'en appelais plutôt pour comprendre la magie de cette journée, à plutôt un concept d'enchantement. Et lui venait précisément avec ce concept de traumatisme. Et en fait, je pense que la frontière, elle est ténue en réalité, parce que dans les deux cas, il y a quelque chose où ça brise le régime quotidien d'action. Mais ce qui fait la différence entre l'enchantement et le traumatisme, c'est ce cadre bienveillant et c'est le sentiment possible de faire communauté. Et la communauté ici, dans la journée d'activité, elle se décline différemment et en faisant aussi intervenir les chevaux qui font communauté avec nous d'une manière singulière, inhabituelle. Et là aussi, il y a quelque chose comme l'occasion d'un déclic, l'occasion de la prise de conscience d'autre chose, d'une autre façon d'être avec soi, avec les autres et au milieu d'un monde, quoi.
Faire communauté, Christine Charbonnier, faire communauté dans un univers total, hein, on dirait, total et antagoniste.
Oui, c'est vrai que la prison, c'est vraiment un espace dans lequel chacun a un rôle bien défini et même les détenus entre eux s'approprient un rôle et reconnaissent leur père en fonction.
Et chacun est tenté de surjouer son rôle, tous.
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je connaissais pas l'expression de Bénédicte de Villers, mais un espace potentiel. Oui, c'est vraiment une belle expression et je crois que ça mérite d'être retenu justement parce que je pense vraiment que dans les établissements pénitentiaires, il faut que nous créions ces espaces potentiels dans lesquels tout est possible, dans lesquels on peut fonctionner un peu différemment.
C'est le paradoxe d'ailleurs de la prison, c'est le paradoxe de la tâche qui vous incombe d'ailleurs, vous en tant que directrice d'une maison centrale et à tous les personnels pénitentiaires, c'est comment on peut réussir à faire un espace, d'un espace fermé, extrêmement finalisé et extrêmement codé, surcodé, surjoué, un espace potentiel où l'imagination tout d'un coup trouve sa place.
Non, mais effectivement, c'est extrêmement difficile, et en particulier pour les personnels de surveillance à qui on demande à la fois d'avoir une relation humaine avec la personne détenue et en même temps, on va leur demander de fouiller leur cellule, de fouiller la personne et de fermer la porte à clé le soir en partant. C'est sûr que c'est vraiment le paradoxe de la prison, incontestablement.
Et un paradoxe surmontable.
Difficilement surmontable, mais auquel il faut s'atteler en permanence. Et je crois qu'il y a toujours un équilibre très subtil à chercher et si possible à trouver.
Bénédicte de Villers, vous avez été quand même touchée par l'humanité que vous avez ressentie dans vos carnets d'anthropologue pendant ces journées. Vous avez participé au débriefing aussi sur les retours d'expérience. Et on sent que vous êtes vous-même touchée par cette humanité.
Oui, c'est à la fin de la journée, ces séances de débriefing, donc c'était l'occasion de revenir sur l'ensemble de la journée, sur l'ensemble des émotions et des choses qui avaient pu s'y produire. Tout le monde prend la parole, donc les détenus autant que les surveillants, aussi l'intervenant, l'éleveuse de chevaux qui participe en fait à l'entièreté de la journée, qui est la garante du bien-être des chevaux, mais qui remercie en fait les détenus d'avoir pris soin de ces chevaux. Alors, quand j'étais présente, donc nous étions plusieurs en réalité, nous étions deux chercheuses et il y avait souvent aussi le directeur de la Fondation Zomer qui commanditait l'étude. Et donc, il y avait vraiment une espèce de ritualisation des remerciements et de la reconnaissance. Et je pense justement aussi que dans la dynamique de la prison, le fait que la reconnaissance des différentes personnes qui étaient là, que cette reconnaissance puisse advenir à la faveur d'un moment tout à fait pacifique et partagé plutôt qu'au terme d'une lutte pour la reconnaissance, si on veut parler en langage de Hegel.
Oui, d'accès honnête.
De nouveau, c'est quelque chose de tout à fait surprenant.
Oui, vous employez un mot, et un mot, je crois, qu'on comprend bien, que personnellement j'éprouve. Vous dites, le cheval, les chevaux, ils introduisent une dimension de cérémonie, finalement, dans les rapports humains.
De cérémonie, de rituel aussi. Oui. Hein. Du coup, c'est vraiment un enchaînement d'actions dans lequel on entre sans trop savoir très très bien tout ce qui va se passer et ce que ça va avoir comme impact sur la personne. Et c'est de cet enchaînement d'actions, de cet enchaînement ritualisé d'actions, que va pouvoir effectivement découler quelque chose qui va surprendre tout le monde, le premier concernant étant probablement en effet le détenu.
Et qui vous surprend aussi, Christine Charbonnier, en tant que directrice de maison centrale, que tout d'un coup quelque chose est possible, quelque chose a été ouvert en prison par la présence de ces animaux.
Oui, l'apparition du sensible, de l'expérience sensible en prison est toujours surprenante pour tout le monde, parce qu'effectivement... elle oblige à laisser tomber les masques et elle met tout le monde en situation de surprise. Mais je voulais aussi rebondir sur justement l'éleveuse de chevaux. Mmh. Ce que je trouve intéressant, c'est que donc c'était une femme et c'était elle la sachante.
Oui.
Donc c'est pas anodin non plus
là
dans
aussi.
Un monde d'hommes.
Oui, tout à fait, très masculin. Mmh. Très masculin. Mmh. Oui, bien sûr. Et puis il y a tout d'un coup ces relations entre les détenus. Alors le risque, ce qu'on pourrait craindre, redouter, c'est que c'est une journée, mais une journée après qui se termine. Et en fait, vous remarquez dans le débriefing, vous remarquez que quelque chose a bougé, Christine Charbonnier.
Oui, enfin. Comme je le disais, c'est plutôt de l'ordre de l'intuition. Et c'est pour ça que cette étude menée à la fois par une sociologue, anthropologue et une psychologue était vraiment intéressante, parce que c'est une évaluation qualitative qui nous permet de prendre du recul sur ce qui s'est passé et qui nous permet effectivement de nous rendre compte qu'il se passe des choses tangibles. Parce que c'est vrai que, d'ailleurs, c'est tellement tangible que le soir, à la fin de la journée, lorsque les personnes détenues sont raccompagnées en cellule, le psychologue va voir chacun des détenus de l'étage et lui donne quelques indications et en général attire son attention sur la fragilité vraiment visible de deux ou trois des personnes qui ont participé à cette journée-là.
Que ça a ébranlé
complètement. Parce que il a peur effectivement que le retour justement de la solitude dans la cellule soit extrêmement violent s'il n'est pas accompagné. Et là aussi, c'est intéressant parce que du coup, les surveillants sont vraiment particulièrement attentifs. Et ça aussi, ça crée une relation un petit peu différente. Mmh. Et de voir une personne habituellement forte en bouche, qui a perdu un peu de sa superbe, ben, ça remet aussi les choses à leur juste place et ça réintroduit de l'humanité dans les relations.
C'est ça. Réintroduire de l'humanité bénédictine de Villers. Vous avez même employé ce mot faire communauté. Faire communauté, reconnaissance mutuelle, interreconnaissance. Vous prêtez un grand crédit à un événement rituel, un enchaînement d'actions extérieures en quelque sorte qui permet à chacun de ne plus prendre l'initiative et de participer à quelque chose de collectif, Bénédicte de Villers.
Oui, c'était assez frappant. D'un bout à l'autre de la journée, les détenus n'envisageaient pas de participer à la journée sans eux-mêmes donner quelque chose. Alors, ça allait de la confection du repas de midi ou de la participation avec l'achat de boissons ou des choses comme ça. Enfin, chacun a selon ses possibilités. Mais effectivement, l'idée, c'était que tout le monde se sentait obligé de participer, mais finalement, anthropologiquement, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans le don et le contre-don. Il y a cette dimension que derrière des allures de grand désintéressement et de gratuité, en fait, il y a le don, mais il y a le don qui oblige. Et donc, c'est aussi ça qui fait communauté. On n'y va pas en ayant l'impression que c'est quelque chose qui nous est dû. Il faut qu'on donne, il faut qu'on le donne de soi, il faut qu'on donne quelque chose, qu'on participe. Et c'est ça qui fait advenir un commun, un monde commun, en tout cas à ce moment-là. Effectivement, je pense qu'il faut rester très prudent sur le devenir et l'efficacité à long terme de ce type de dispositif, oui. Mais en tout cas, ça ouvre quelque chose.
Et en tout cas, on est frappé, les auditeurs sont frappés de ce vocabulaire politique que vous employez, Bénédicte de Villers, c'est-à-dire finalement, il y a un événement politique, il y a un événement civique qui s'est passé dans une prison qui n'est pas le lieu dans lequel on l'aurait attendu.
Une humanisation par l'animal.
Oui, c'est ça. Mais c'est paradoxal, Christine Charbonnier.
Oui.
Oui et non. En tout cas, c'est l'un des rôles de la prison, je pense, que de permettre ces prises de conscience. Parce que si on réfléchit, je pense que la plupart des crimes commis le sont consécutivement à une difficulté de communication avec les autres, une difficulté de verbaliser des situations et du coup
de symboliser des
c'est ça sociaux. Et du coup c'est cette émotion violente qui submerge et qui facilite le passage à l'acte. Et c'est vrai que voilà, je pense que l'intérêt de ces journées, c'est aussi d'apprendre, de réaliser que les émotions surviennent et de savoir travailler avec, les canaliser quand c'est nécessaire, en profiter quand ce sont des émotions heureuses. Et est-ce que c'est pas ça le plus important pour pouvoir faire société ?
Bénédicte de Villers.
Oui, certainement. Et c'est vraiment intéressant de voir comment justement les animaux introduisent autre chose et connectent quand même aussi à un soi profond. En fait, effectivement, en présence d'un tel cheval, on ne sait pas tricher. Il y a quelque chose qui ramène au corps, au sensible, à un échange
et aussi,
qui est sans masque.
Et sans masque, mais Christine Charbonnier parlait à l'instant de la violence et c'est aussi, ça a quelque chose à voir avec une violence surmontée en l'occurrence grâce à l'animal.
Ah oui, tout à fait. C'est vraiment la découverte que pour que finalement l'échange puisse avoir lieu, il y a toute cette canalisation et cette mise en forme en fait des pulsions, de l'énergie vitale qui doit être faite et l'intervenant vise à cela.
Très bien. Un mot de conclusion, Christine Charbonnier, un vœu.
Que ce type d'expérience se développe et qu'il ne faut pas hésiter à expérimenter des journées, des moments, des espaces un peu différents dans les établissements pénitentiaires.
Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous deux. Esprit de justice est terminé pour ce soir. À la technique, il y avait Ludovic Auger. À la réalisation, Jean-Christophe Francis. À la préparation, Sandrine Chaperon. C'était une émission d'Antoine Garapon.